Bonjour, bonjour à tous. Mardi 16 janvier 2018, bienvenue aux Voix de Service. Je suis Louis de Bernis et je suis un peu seul dans le studio ce matin. Je salue chaleureusement Michel qui se repose aujourd'hui. Nous le retrouverons très probablement dès la semaine prochaine. Émission en solo mais avec plein d'articles différents, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous parlerons notamment d'Internet, il y a tant de choses à dire, le regain de faux avis en ligne par exemple, ou également l'indignation permanente qui y règne. Nous parlerons aussi, pourquoi pas, de homards, du danger des bikinis masculins, ou encore d'un chien qui ressemble à Donald Trump, tout pour faire une... Et commençons cette ribambelle d'articles surprenants et intéressants pour les deux premiers, ça c'est certain. Ils sont tirés du Monde et parlent de l'Internet. Il y a tant de choses à dire, mais sous deux angles assez particuliers. Le premier, regain de faux avis en ligne. Plus d'un tiers des commentaires postés sur Internet seraient mensongers. Une pratique qui font de ces avis des avatars, des fake news, estime dans une chronique Luc Vonupagroff, journaliste au Monde. À force de passer trop de temps devant nos écrans, on finirait par l'oublier. Un rapport de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été publié en fin d'année dernière en France et vient nous rappeler cette vérité simple. Les avis anonymes publiés sur les sites de vente ou de comparaison peuvent être mensongers. Et pas qu'un peu. L'enquête estime que près de 35% des commentaires postés relèvent régulièrement de pratiques commerciales trompeuses dans le but de valoriser, de manière déloyale, leur entreprise. Paradoxe, l'influence de ces avis, pour connaître en quelques clics l'hôtel le moins cher, dénicher le meilleur plombier ou la meilleure paire d'écouteurs, n'a jamais été aussi importante dans l'acte d'achat. 74% des internautes ont déjà renoncé à acheter un produit à cause de commentaires ou d'avis négatifs. Et 41% ont déjà réalisé un achat spontané à la suite d'un avis positif. L'avis en ligne, comme outil de prescription, est donc une devise à la valeur intacte, mais sa nature, elle, est de moins en moins claire. La publicité, on le sait, exagère par essence. Le bouche à oreille est bancal, sujet à déformation. Les opinions en ligne de nos semblables, à la recherche comme nous du meilleur rapport qualité-prix, devraient en revanche être plus fiables. Or, elles ne sont pas forcément plus authentiques. Comme le rappelle Daria Plotnica, enseignante chercheuse en gestion des systèmes d'information et marketing à l'Université de Strasbourg, la galaxie des avis trompeurs est immense. Elle va des petits entrepreneurs ou professions libérales encensant leur propre commerce sur Google. La technique la plus facile et la plus fréquente à des agences dites réputation qui vont vendre des dizaines ou des centaines de commentaires élogieux pour créer l'illusion d'un consensus. De la vente de commentaires, voilà où nous en sommes. Les consommateurs croient en leur capacité à détecter si un avis est faux, ajoute-t-elle, mais une fois sur deux, en moyenne, montrant ses travaux, ils n'y parviennent pas. Sans être de la propagande pure et simple, les faux avis qui pullulent sur les sites commerciaux peuvent ainsi être envisagés comme une branche plus artisanale des fake news. Les conséquences sont moindres, des tromperies commerciales à petite ou moyenne échelle sans retombées politiques ou sociales, mais le principe reste le même. Il découle avant tout de la façon dont les sites fonctionnent. Ils encouragent le feedback pour des raisons financières, mais les mécanismes qu'ils mettent en place censés vérifier la véracité de ces avis sont facilement contournables. Avec ses chiffres, ses étoiles et ses smileys, ses emojis, ce système de notation, malgré ses déficiences, nous devient de plus en plus familier. Tout le monde y est trop habitué et il n'existe pas d'alternative proposant autant d'informations extérieures à l'entreprise que ses avis en ligne, constate la journaliste. Comment dès lors assainir la situation ? Des normes et des labels assurant l'authenticité de l'information, domaine dans lequel la France est en pointe, pourrait constituer une piste, mais quel consommateur connaît leur existence ? Affaire à suivre. Internet toujours avec un second article tiré du Monde. Vous aurez peut-être reconnu dans le premier avec ses anglicismes, la langue de Molière. En voici un second dans lequel il y en aura peut-être d'autres. L'indignation sur les réseaux sociaux, sur Internet. Du danger de trop s'indigner en ligne, voilà le titre de l'article. L'indignation, est un des carburants qui font tourner Twitter, Facebook. Mais à force, notre capacité à distinguer la tragédie de la simple nuisance s'estompe. Les cycles d'indignation sur les réseaux ne durent jamais très longtemps. Un sujet provoquant l'irritation d'un certain nombre d'utilisateurs émerge et devient le centre d'une conversation plus large, alimentée par des reprises médiatiques. Puis il s'essouffle, descend de quelques crans sur la liste des « trending topics », comme on les appelle, et est vite remplacé par le suivant. L'indignation de leurs utilisateurs est un des carburants qui font tourner Twitter ou Facebook. Elle est recherchée et encouragée par ces multinationales car elle est au cœur même du fonctionnement des plateformes qu'elles ont créées. Le contenu à fort quotient émotionnel génère plus de likes, de commentaires, de partages. Une des émotions qui rapporte le plus est la colère. Pour que ces services, que nous utilisons gratuitement, soient rentables, ces entreprises ont besoin de toujours plus de trafic, donc de revenus publicitaires. Elles ont intérêt à ce qu'on y reste le plus longtemps possible. C'est une réalité qu'on a trop tendance à oublier lorsqu'on traite de polémiques nées sur les réseaux sociaux. Molly Crockett, professeure adjointe de psychologie à l'université Yale dans le Connecticut, le rappelle justement dans « Indignation morale à l'ère digitale », une étude qui s'intéresse à la façon dont les technologies peuvent transformer l'expression de l'indignation morale et ses conséquences sociales. L'hypothèse émise par Molly Crockett, qui s'appuie sur de précédentes études et sur ses propres recherches, a forcément déjà été effleurée par celles et ceux qui font un usage un peu trop intensif des réseaux sociaux. Ces écosystèmes exacerbent la façon dont on exprime l'indignation en gonflant les stimulus déclencheurs, en réduisant son coût et en amplifiant les bénéfices personnels que l'on en tire. Rien de plus facile que de rejoindre en quelques clics une cohorte numérique qui crie son mécontentement, surtout si le hashtag, la vidéo ou la personne qui suscite le mécontentement apparaît sans cesse dans notre flux, partagé par nos amis et automatiquement mis en avant par les algorithmes. Ou, comme le formule une comparaison de l'étude particulièrement bien trouvée, si l'indignation est un incendie, Internet serait-il l'essence ? Dans les espaces sociaux d'Internet, l'expression de l'indignation relève parfois du réflexe, de par l'architecture même de ces espaces. Et pour d'autres raisons qui en découlent et que la chercheuse résume ainsi. Exprimer son indignation n'est pas limité par l'endroit où on se trouve, par l'heure ou la probabilité d'être confronté à la source de notre indignation. Diffuser notre réprobation morale à des personnes qui partagent nos valeurs nous permet de nous cacher dans la foule, moquer un inconnu dans la rue est bien plus risqué que de rejoindre une foule de plusieurs milliers de comptes Twitter. Dans un environnement comme Facebook ou Twitter, chacun a une compensation émotionnelle en échange du partage de son indignation, explique Molly Crockett, qui parle de récompense réputationnelle. Ce retour sous la forme de likes, de cœurs ou de retweets pour avoir fait la publicité de notre caractère à notre réseau social. Dans ce jeu, ce serait la carotte. Le bâton, en revanche, pourrait potentiellement faire plus de dommages. Si notre capacité d'indignation s'est à ce point banalisée, la valeur ne peut que se diluer. À force de s'indigner systématiquement, on ne s'indigne plus vraiment de rien. Exactement comme quelqu'un qui grignote sans cesse sans même avoir faim. Celui qui a pris l'habitude de s'indigner en ligne va le faire sans vraiment se sentir indigné. Pis encore, en abaissant le seuil de l'indignation, les réseaux sociaux, mais aussi les médias numériques, risquent de dégrader notre capacité à distinguer entre l'abominable et le désagréable. À trop passer de temps dans nos flux, une tragédie humanitaire qui se déroule à des milliers de kilomètres, la dernière déclaration politique débile diffusée par les matinales de radio ou un hashtag de cours de récréation se succèdent et finissent par se confondre. Évitons quand même de tomber dans le piège de dire que l'écosystème qui s'est construit autour des réseaux sociaux ne serait qu'un espace creux de sentiments désincarnés. Les indignations omniprésentes qui y circulent sont parfois canalisées et aboutissent à des actions concrètes et structurées, servent à mettre en contact des personnes éloignées qui organisent des pétitions à succès, des manifestations. Le dernier mouvement qui est apparu, massif et organique, est incarné en France par le hashtag « Balance ton porc, moi aussi, ici au Canada et aux États-Unis, avec lequel des milliers de femmes ont partagé sur Twitter leurs expériences d'agression ou de harcèlement sexuel. À moins d'une semaine d'existence, on ne peut pas encore dire s'il restera une explosion cathartique de victimes en tentant de se libérer d'un poids trop longtemps enfoui, ou s'il aboutira à des avancées tangibles pour lutter contre le harcèlement et les violences entre les femmes, envers les femmes. Cet article datait d'il y a un mois, voilà pourquoi il en parle au passé. Il n'est pas surprenant que cette prise de parole collective ait pu naître et s'aimer sur les réseaux, mais comme le dit le chercheur Olivier Hirschteit, ce serait une catastrophe que ces débats commencent et terminent sur Twitter ou sur Facebook, comme ce serait une catastrophe de croire que ces plateformes protégeront. Si ces espaces deviennent des agoras numériques où des problèmes de société émergent et débordent jusque dans la vie réelle, c'est qu'ils remplissent un vide laissé par les pouvoirs publics et les médias. Pour Twitter et Facebook, par exemple, Balance ton porc n'est qu'un hashtag parmi d'autres, intéressant uniquement dans la mesure où il rapporte du trafic. Mais il y a une vérité qu'on oublie trop souvent. Il n'y a pour ces plateformes ni victimes, ni bourreaux, ni opprimés, ni oppresseurs, seulement des usagers et des clients. Voilà pour ce long et intéressant article, je trouve, tiré du Monde, pour lequel nous avons des exemples tous les jours et tâchons de réfléchir quand nous réagissons.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't.
Est-il vraiment besoin de présenter cette pièce d'anthologie, pièce encore toute jeune, mais qui a déjà plus de 42 bougies, donc une pièce endisquée en 1976. Les Eagles, bien sûr, Hotel California.
Et que c'est bon. Je vais vous parler, moi, d'un film, restons dans la culture, enfin, si l'on veut. Il n'a pas 42 ans, il en a une petite dizaine seulement. Mais il avait fait grand bruit à sa sortie et fait encore parler aujourd'hui. Je vais vous parler du danger de porter le mankini, un bikini pour homme, de Borat dans les rues du Kazakhstan. Plus de 10 ans après sa sortie, le pays d'Asie centrale doit encore, de temps à autre, gérer les conséquences du film de l'acteur américain Sacha Baron Cohen. L'histoire est apparue sur le site d'information kazakh Informbureau avant d'être prise par l'agence Associated Press, qui a assuré sa présence sur les unes des sites anglo-saxons à travers le monde, et puis ici, c'est-à-dire sur le site du Monde. Les héros de cette histoire sont 6 touristes tchèques, venus passer quelques jours à Astana, la capitale du Kazakhstan. Ils ont été arrêtés par la police alors qu'ils étaient presque nus, devant un panneau « I love Astana », avec pour seul habit un mankini vert fluo et des perruques noires. La photo de l'incident a été prise au moment des préparatifs sur l'immense esplanade, juste avant l'arrestation. Sous le ciel gris, il n'y avait personne pour regarder les simili Borat, à part les policiers. Le maillot de bain microscopique est familier de ceux qui ont vu le film Borat. C'est un des costumes portés par l'acteur britannique Sacha Baron Cohen, Sacha Baron Cohen, qui joue à un journaliste kazakh épuisant à regarder. Pour ceux qui ne verraient pas, je le décris en quelques mots, c'est une sorte de maillot de bain qui, au lieu de se terminer sur les hanches, se finit eh bien, sur les épaules. Essayez de vous représenter la chose, c'est compliqué, ça part dans tous les sens. Plus de 10 ans après la sortie de ce faux documentaire au succès mondial, Le Kazakhstan traîne encore comme un boulet ces blagues et caricatures extrêmes d'un pays dégénéré que le film a popularisé. Elles ne font toujours pas rire les policiers kazakhs, apparemment. Chaque faux borat tchèque a été emmené au poste de police et a reçu une amende de 22 500 tenge. Ce qui fait, rassurez-vous, seulement 70 $ canadiens. Mais tout de même, le chef d'accusation était « acte de hooliganisme mineur ». Comme le Kazakhstan, Sacha Baron Cohen traîne aussi derrière lui le personnage qu'il a imaginé il y a une décennie. Il a fait beaucoup de choses depuis, mais pour certains, il sera toujours Borat Tsagdiev, à qui on demande de dire « great success dans la rue ». Mais il a un peu plus d'humour que les policiers kazakhs, puisqu'il a écrit un message sur Facebook pour dire qu'il paierait les amendes de ses imitateurs. Il faut simplement que les personnes concernées le contactent à l'adresse « arrêtez pour avoir porté votre mankini à commercial@gmail.com ». Sans juger de l'humour ou du manque d'humour des uns et des autres, cet incident nous rappelle que la résonance culturelle de ce film porte encore même après une décennie et que le Kazakhstan a toujours un rapport compliqué avec lui. À sa sortie, le pays avait mal pris sa caricature, d'autant que rien de ce qui était montré dans le film n'était réel. Les scènes filmées dans un village arriéré, censé être filmé au Kazakhstan, l'étaient, en fait, en Roumanie. La langue parlée par Borat était un mélange d'hébreu et de polonais. Les autorités kazakhes avaient bien pris soin de le répéter dans des campagnes de publicité ou dans les journaux américains, en menaçant d'interdire la diffusion du film. Plus tard, elles ont reconnu tout de même que, malgré les blagues douteuses, eh bien, Borat avait contribué à attirer des touristes, même s'ils ne sont là que pour répliquer des scènes débiles d'un film qui n'a rien à voir avec eux. Ma foi, ça fait partie de l'humour de cet univers et ils ont fini au poste. Peut-être que ça découragera les prochains. Nous sommes en 2018, cela ne vous aura pas échappé, et au Canada, 2018 va rimer, avec une réforme majeure, à savoir celle du cannabis au Canada, de sa consommation, de sa vente, tout ça. Eh bien, je vous parle d'un petit sujet qui nous vient des États-Unis. Hausse du nombre de chiens rendus malades par le cannabis. Les vétérinaires disent observer une hausse du nombre de chiens rendus malades après avoir ingéré de la marijuana, et mettent en garde les propriétaires d'animaux en vue de la légalisation prochaine ici au pays. Le docteur Jeff Goodall, vétérinaire à la clinique Sunnyview de Bedford, en Nouvelle-Écosse, dit avoir traité 5 cas d'intoxication à la marijuana en 2017, contre 3 en 2016 et aucun en 2015. Il explique que le tétrahydrocannabinol, je pense l'avoir écorché, mais on comprend l'idée, contenu dans la plante, ne rend pas le chien drogué, mais plutôt très malade. L'animal peut vaciller, pleurer et uriner de manière incontrôlée. Dans de rares cas, l'intoxication peut malheureusement même entraîner la mort de l'animal. Le docteur Goodall aimerait voir plus d'avertissements et d'informations auprès du grand public sur les conséquences que peut avoir l'ingestion de cannabis pour un animal de compagnie. Au Colorado, où la consommation de cannabis à des fins récréatives a été légalisée en 2012, on a rapporté 4 fois plus de cas d'intoxication chez les chiens entre 2010 et 2015. Faites attention donc à vos amis à poil. Je vous en avais parlé il y a à peu près un mois et demi, il me semble, du coup parfait réalisé par un sans-abri qui avait trouvé de l'argent à l'aéroport de Paris. Eh bien, ce coup est encore plus parfait que ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'il y a un petit rebondissement à l'affaire. Il avait réalisé le coup parfait, un sans-abri, qui a dérobé en décembre à l'aéroport parisien de Roissy 2 sacs de billets à une société de transport de fonds, a vu son butin réévalué à la hausse pour atteindre désormais près de 740 000 dollars canadiens, a indiqué une source proche de l'enquête. Cet homme, un habitué de l'aéroport qui a été identifié par la police aux frontières, demeure introuvable. Le 8 décembre, le sans-abri, âgé d'une cinquantaine d'années, fouillait dans les poubelles de l'aéroport quand il avait machinalement ouvert une porte menant à un sas sécurisé où se trouvaient plusieurs sacs d'espèces. Étonnant que la porte était ouverte, mais elle l'était bien. Il était reparti avec deux sacs remplis de billets, un coup parfait, avait résumé un enquêteur. Le montant du vol, initialement évalué à 300 000 euros, a été réévalué à près de 500 000 euros par la société de transport de fonds Loomis. Au départ, on pensait à un coût monté, avec des complicités en interne. Mais a priori, c'est le pur fait du hasard, c'est absolument fou, a soufflé un policier à la découverte du vol. Puisque nous étions à Paris, eh bien, petite question, est-ce que vous connaissez la réponse ? Pourquoi la taille de la tour Eiffel varie-t-elle selon la température ? La hauteur de la tour Eiffel varie d'une quinzaine de centimètres, ce n'est pas rien, au cours de l'année. Elle grandit un peu lors des fortes chaleurs et rapetisse quand la température descend. Ceci est le résultat d'un effet appelé en physique la dilatation thermique. À pression constante, le volume d'un corps augmente lorsque la température augmente. Cette augmentation est plus ou moins importante suivant le coefficient de dilatation de la matière. En d'autres termes, toutes les matières se dilatent quand il fait chaud et se rétractent quand il fait froid. Mais certaines matières le font plus que d'autres. L'acier dont est constituée la tour Eiffel a un coefficient de dilatation relativement important, ce qui explique de telles variations de la Grande Dame de Fer. Nous prenons une courte pause musicale, mais ne bougez pas, nous revenons juste après avec encore plus de nouvelles insolites. A tout de suite.
Got to hold on, hold on. God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken china voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. And you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand. Standing right here, gotta hold. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on to take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on.
Peut-être auriez-vous deviné le titre de cette pièce, Hold On. C'était Tom Waits sur Canal M.
De retour avec des nouvelles insolites. Celle-ci nous vient de France, de Bretagne. Et consiste en une, comment décrirais-je ça, une affaire de la route, disons ça comme ça. Un conducteur a été jugé mercredi dernier par le tribunal correctionnel. En octobre dernier, il avait été arrêté par la police après un rodéo au volant de sa voiture en centre-ville. Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, a condamné la semaine passée un automobiliste a une peine de 90 jours amende à 7 euros et à une contravention de 150 euros. Le malfrat, eh bien, a un profil un peu particulier. Cet homme de 73 ans a été interpellé en octobre dernier après, je cite, un rodéo au volant de sa voiture en plein cœur du centre-ville. Selon le rapport de police, le conducteur effectuait des coups d'accélérateur suivis de coups de frein pour tenter d'échapper aux forces de l'ordre. Et il aurait notamment, c'est peut-être là son chef-d'œuvre, effectué au total 17 tours d'un rond-point. Le septuagénaire était poursuivi pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, pour conduite en état d'ivresse manifeste, et refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie, et également conduite à une vitesse excessive, eu égard aux circonstances. Le journal précise qu'il avait déjà été condamné pour une affaire similaire en 2012. Son permis a été annulé cette fois-ci. Pour sa défense, il affirme ne pas avoir entendu les sirènes des voitures de police pendant ses 17 tours de rond-point. « Nous sommes encore en janvier, et donc c'est encore le temps de souhaiter des bons vœux à ceux qu'on n'a pas encore croisés depuis décembre, de se souhaiter par exemple la santé. Eh bien, souhaitons-la à ce monsieur. Un homme de la Colombie-Britannique se bat pour sa vie depuis que le gouvernement fédéral l'a déclaré mort deux fois plutôt qu'une, en raison d'erreurs bureaucratiques. Les problèmes de Brian Kupiak, un citoyen de Kamloops dans la soixantaine, ont commencé en octobre dernier lorsqu'il a reçu un avis du programme de la sécurité de la vieillesse adressé à sa succession. Brian Kupiak explique que les fonctionnaires du gouvernement ont inscrit par erreur son numéro d'assurance sociale sur le certificat de décès de sa mère qui avait rendu l'âme un mois plus tôt. En raison de cette méprise, l'homme a été privé temporairement de tous ses avantages sociaux, dont ses prestations de retraite. Mais il a heureusement été ramené à la vie une semaine plus tard grâce à l'aide de la députée de sa circonscription. Le sexagénaire croyait alors que tout était réglé, mais son épouse a reçu une lettre du gouvernement fédéral, dimanche dernier, où elle était désignée comme veuve. Pour Brian Kupiak, devoir se battre une deuxième fois avec l'administration fédérale pour la même erreur est au-dessus de ses forces, surtout considérant qu'il tente toujours de se remettre du décès de sa pauvre mère. « Je me suis dit, ok, c'est réglé, et maintenant ma femme est veuve, ce qui veut dire que je suis encore mort », a commenté M. Kupiak. Il a l'intention de solliciter à nouveau l'aide du bureau de sa députée afin de régler le dossier et de bien être considéré comme vivant. Méfiez-vous de vos iPhones, ces petites bombes à retardement. Bon, loin de moi l'idée de dire que tous les iPhones vont terminer comme ça, mais tout de même, ça s'est passé en Suisse, à Genève. Une personne a été légèrement blessée et un magasin Apple a dû être complètement évacué mardi à Zurich, pas à Genève donc, à cause d'une pile d'iPhones en surchauffe, a indiqué la police de la ville. Un client est entré précipitamment dans ce magasin situé dans la principale artère commerciale de Zurich, près de la gare, à cause d'une pile en surchauffe qui était accompagnée d'un dégagement de fumée, a expliqué la police zurichoise. L'employé, qui a tenté de retirer la pile, a été légèrement brûlé aux mains et 7 autres personnes ont dû recevoir des soins sur place, a-t-elle ajouté. Les dégâts ont pu être limités grâce à la réaction du personnel qui a versé du sable de quartz sur la pile pour contenir le dégagement de fumée, a-t-elle précisé. La cinquantaine de clients et employés qui se trouvaient dans le magasin ont été évacués par précaution. Les spécialistes de l'Institut Forensique de Zurich étudient actuellement la pile en cause pour tenter de déterminer les raisons de l'incident. Partons en Indonésie à présent, où un crocodile, un pauvre crocodile devrais-je dire, avec un pneu autour du cou, risque de s'étouffer. Un crocodile marin avec un pneu autour du cou depuis plus d'un an, dans un fleuve en Indonésie, risque d'étouffer à mesure qu'il grandit, et les autorités peinent à sauver le reptile devenu une attraction locale. Espèce protégée, ce crocodile long de quelques 4 mètres tout de même a été aperçu régulièrement depuis fin 2016 dans le fleuve qui traverse Palu, la capitale du centre des célèbes. Une récente vidéo, tournée par un habitant de la région, montre le reptile qui peine à respirer. Les défenseurs des animaux pensent que quelqu'un a délibérément lancé ce pneu de moto autour de la tête du reptile pour essayer de le piéger et de le conserver comme un animal de compagnie. Le crocodile a été récemment aperçu en train de nager sous un pont à Palu, sous les yeux de curieux essayant de prendre des selfies avec le reptile en toile de fond. L'an passé, nous avons constaté qu'il y avait encore suffisamment d'espace pour que le crocodile puisse remuer son cou. Mais nous n'allons pas attendre que le pneu étouffe l'animal, a déclaré le directeur de l'agence locale de protection des animaux, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens, M. Haruna. Le problème, c'est que l'agence n'a pas les équipements appropriés pour sauver l'animal et les tentatives toutes récentes de le localiser dans le fleuve se sont révélées infructueuses. En outre, les autorités s'opposent à l'utilisation de fléchettes tranquillisantes en vue d'approcher le reptile, redoutant qu'il ne disparaisse dans le fleuve où se trouvent plus d'une vingtaine de crocodiles avant que le sédatif n'agisse. à la recherche de solutions, des membres de l'agence locale de protection des animaux ont créé un piège en fer qui sera placé au fond du fleuve lorsque le niveau de l'eau sera bas. Nous allons sans aucun doute sauver le crocodile, mais en même temps, il faut aussi que je tienne compte de la sécurité de mes hommes, a dit le responsable.
tiré de leur deuxième album qui s'intitule Trompe-l'œil. C'était la formation Malajube avec la pièce Étienne Daou.
Partons à présent à Las Vegas. Les gadgets plus ou moins utiles et même franchement inutiles pour certains du Consumer Electronics Show. Ceux qui imaginent la maison intelligente d'aujourd'hui semblent davantage fascinés par ce qu'on peut faire que par ce que les utilisateurs, les consommateurs ont vraiment besoin. Cela explique possiblement le défilé interminable de tire-bouchons, de bouteilles d'eau, de thermomètres à viande, de réfrigérateurs, le tout relié au web, et la pénurie d'appareils capables de laver, de plier la lessive, de ramasser ce qui traîne ou d'aider les aînés dont les capacités physiques sont en déclin. Certains inventeurs essaient vraiment d'inventer le prochain bidule révolutionnaire. Le Consumer Electronics Show, un événement annuel qui a débuté mardi à Las Vegas, met en vedette les plus récentes innovations des compagnies, petites et grandes. Quelques-unes de ces inventions ont le potentiel d'être vraiment utiles. D'autres semblent d'une inutilité qui frise le ridicule, mais qui sait vraiment. Vous voulez utiliser votre réfrigérateur pour appeler Uber ? Samsung vous permet de le faire avec les plus récents appareils présentés à Vegas. Ou si vous préférez une bouteille d'eau qui vous aide à célébrer quand vous avez atteint vos objectifs d'hydratation, la bouteille HydratSpark 2.0, oui, elle est reliée au web, est pour vous. On peut aussi y contrôler un four à micro-ondes Whirlpool avec des commandes vocales. Malheureusement, les règles actuelles imposent d'aller appuyer manuellement sur le bouton pour le mettre en marche. Et personne n'a encore mis au point un système permettant de placer des aliments à l'intérieur et de les sortir à distance. Le thermomètre à viande d'Aption Labs enverra une alerte à l'application installée sur votre téléphone portable quand votre steak sera cuit à point. On se demande aussi qui, à part peut-être les œnologues les plus fanatiques, voudra contrôler le niveau de gaz argon dans une bouteille à moitié vide de pinot noir. Mais si cela vous intéresse, Coravin, qui se spécialise dans les gadgets du genre, vous propose un appareil qui extirpe le vin de la bouteille sans retirer le bouchon. Une application vous prévient quand le bidule a besoin d'être nettoyé ou que ses piles commencent à faiblir. Tout cela témoigne de l'engouement des inventeurs à relier le moindre appareil de notre maison au web. Mais en a-t-on vraiment besoin ? Le gadget inutile d'un individu est l'invention révolutionnaire d'un autre. Plusieurs innovations présentées au CES pourraient éventuellement connaître du succès auprès d'un public bien précis, même si elles ne sont jamais largement adoptées, croit l'analyste des technologies Tom Cullen, le président de Cullen Associates. Il y a des choses qui arrivent trop tôt, il y a des choses qui sont seulement à moitié cuites, a-t-il dit. Mais on ne sait jamais, ajoute-t-il, car parfois les gens ne savent pas de quoi ils ont besoin avant de le voir. Le CES, poursuit M. Cullen, présente les espoirs et les rêves, les fantasmes aussi bien fous que magnifiques, et les choses les plus originales que les gens puissent imaginer. Aux Pays-Bas, les jeunes entrepreneurs se rappellent en riant d'une vidéo tournée dans les années 90, dans laquelle on demandait à des passants interpellés à Amsterdam s'ils étaient intéressés par un téléphone portable, souligne Stefan Winkmann, le fondateur d'Atom, une firme spécialisée dans les maisons intelligentes. « Aujourd'hui, il est devenu impensable de ne pas avoir de téléphone portable », dit-il. Le gadget Homey, conçu par sa firme, réunit en un seul système différents appareils reliés au web. Un scepticisme comparable touche aujourd'hui les appareils intelligents, croit-il. Les gens demandent « Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de contrôler ma musique avec mon téléphone intelligent ? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de contrôler ma maison à distance ?» Mais il est très possible qu'on se demande dans 5 ans comment on pourrait ne pas vouloir le faire. En réalité, il est beaucoup plus facile de relier un appareil au web que d'inventer un robot qui fera le ménage. Oui, des aspirateurs robotisés nettoient déjà les planchers, mais le niveau d'intelligence requis pour accomplir les tâches ménagères, aussi bien qu'un humain, n'est encore qu'un rêve des inventeurs. Au lieu de ça, les robots qui arrivent sur le marché ne sont souvent que des jouets ou des assistants personnels. Mais on ne peut pas reprocher aux inventeurs de ne pas essayer. « Nous avons mis 13 ans à en arriver là », dit Shin Shakane, le fondateur et PDG de la firme japonaise Seven Dreamers Laboratories. Son plieur de lessive Et son rival, le Floodymate, lui aussi présenté à Vegas, est une merveille d'ingénierie qui met inévitablement en relief les limites de la technologie actuelle. La machine de Monsieur Sakane a la taille d'un pupitre. Elle est munie de bras robotisés, cachés, et d'yeux électroniques qui peuvent distinguer les différents vêtements. « C'est un matériel doux, » dit Monsieur Sakane en tenant une serviette. « Ça pourrait être un chandail, c'est difficile de faire la différence. » Offerte pour seulement 16 000 dollars US, la machine peut plier 30 vêtements par cycle, mais son efficacité laisse à désirer. Elle met 10 minutes à plier un chandail, ce qui veut dire qu'elle a besoin de 6 heures pour plier une brassée. Le Floodymate prétend être plus rapide, son concurrent, mais la compagnie s'est présentée à Vegas pour une deuxième année de suite sans prototype fonctionnel. Le fondateur et PDG espèrent que la machine sera prête à la fin de 2019, pour les plus flemmards d'entre nous donc. En Chine à présent, une statue de chien qui ressemble étrangement à Donald Trump. En 2016, un centre commercial de Taiyuan avait déjà exposé à l'occasion de la nouvelle année un coq géant aux traits du président des États-Unis. Eh bien, cette année, très commentée sur les réseaux sociaux, la statue géante érigée à Taiyuan, dans le nord du pays, représente cette fois-ci une sorte de bulldog blanc, assis sur ses pattes arrière avec la moue caractéristique du milliardaire new-yorkais. Surtout, l'animal est coiffé d'une houppette dorée qui rappelle immanquablement la coupe du locataire de la Maison Blanche. Il lève l'index vers le ciel, un geste qu'affectionne Donald Trump durant ses discours, et arbore une sorte de foulard rouge, référence possible à l'éternelle cravate de ce dernier. L'année du chien, selon le calendrier lunaire chinois, débutera en février, faisant suite à celle du coq. Né en 1946, Donald Trump appartient à ce signe chinois, un trait qu'il partage d'ailleurs avec ses prédécesseurs, Messieurs Bush et Clinton. Selon ces canons astrologiques, les personnes nées lors d'une année du chien sont directes et extrêmement loyales, tout en faisant montre d'un sens aigu de la justice, mais elles sont également réputées têtues et irritables. L'hiver dernier, pour célébrer l'année du coq, le même centre commercial avait donc exposé une statue de volaille à houppette, ressemblant à Monsieur Trump. L'œuvre avait inspiré d'innombrables répliques, y compris un modèle gonflable géant qui avait fait son apparition cet été, non loin de la Maison Blanche. Quelques brèves pour terminer cette émission avec les questions existentielles que vous vous posez sûrement. Celle-ci par exemple, pourquoi est-ce que l'hélium modifie la voix ? En inhalant du gaz d'hélium, on change l'environnement dans lequel les ondes sonores sont projetées de nos cordes vocales. En effet, le son voyage plus vite dans un gaz léger que dans un gaz lourd. Le son dans l'hélium voyage presque 3 fois plus rapidement que dans l'air. Ceci change la résonance dans la gorge, de sorte que les fréquences plus hautes sonnent plus fort que les basses. Ce sont donc les fréquences élevées qui donnent à la voix ce son aigu. Autre question existentielle, quelle est la meilleure place au cinéma ? Les préférences varient, mais il y a bel et bien un endroit dans la salle où la perception du son est optimale, selon les experts en acoustique. Il faut choisir, écoutez bien, une rangée située aux 2/3 de la distance de l'écran, à l'arrière de la salle. La raison étant que la plupart des techniciens du son vérifient la qualité acoustique à cet endroit. Le siège idéal est placé à 1 ou 2 places du centre précis de la rangée. Comme le son est égalisé entre les haut-parleurs à la gauche et à la droite de la salle, il est préférable de ne pas être au centre exact afin de profiter pleinement de l'effet stéréo. Ce qui conclut cette émission en solo, enfin en solo, pas totalement, je remercie Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux toujours de qualité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, je serai sans doute accompagné de Michel Audet. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine.